C'est important la prière. Il dit que sans la prière, on ne peut rien faire de constructif, de valable et surtout qui dure. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais également, avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous dire que pour hier, le mariage, donc tout s'est très bien passé. Amen. Merci à toute l'équipe qui était engagée, qui s'est investie et pour le travail que vous avez accompli. Amen. Voilà, c'est précieux de s'unir, de travailler ensemble. Il vient d'être dit que c'est dans l'unité que là aussi nous pouvons voir tout simplement l'œuvre de Dieu s'accomplir. Amen. Allez, ouvrez avec moi eh bien, le livre de Jonas. On va parler de cet homme qui va passer par la tempête. Hein? Et oui, et puis vous allez voir un petit peu la raison, puisque ce sera la conclusion du message de tout à l'heure. Eh bien, ça rejoint la pensée du frère, hein, ce qu'il nous a dit, parce que c'est ainsi. Alors, je vais prendre le micro à la main. Parce que si je m'éloigne du pupitre, après, vous ne m'entendez plus, ou ceux qui sont à l'enregistrement, eh bien, ont des soucis. Voilà, Jonas, chapitre 2, verset 2. On va commencer par ce verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. » Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Nous savons que Jonas était chargé par Dieu d'une mission dont il devait s'acquitter, bien sûr. Cette mission était d'avertir la ville de Ninive. La population de cette ville vivait dans le désordre, etc. Alors cette ville était la capitale de l'Empire assyrien. Et c'est là que vécurent des rois célèbres, parmi eux Sennachérib, et également Assurbanipal. Ça ne vous dit peut-être rien, mais pourtant c'était donc célèbre. Alors cette ville, elle vivait, disais-je, dans un grand désordre. Elle vivait dans le péché, elle était cruelle, et l'avertissement du prophète Jonas était tout simplement que la ville de Ninive devait subir un châtiment de Dieu bien sûr, à cause de sa cruauté et de la méchanceté de ses habitants. Terrible! Lorsque le jugement de Dieu tombe sur quelqu'un, sur une vie, sur une ville, sur une population, sur un pays, c'est quelque chose de terrible. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, nous le voyons, nous allons le voir tout au long de ce message, c'est un Dieu qui ne désire qu'une chose, c'est pardonner, c'est relever, c'est rétablir. Amen. C'est oublier, mettre de côté. Bien sûr qu'il y a une démarche, on va le voir, et la démarche, eh bien, c'est la repentance. En tout cas, cet avertissement, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Il faut savoir que c'est à prendre avec un grand sérieux aujourd'hui dans notre 21e siècle. Nous disons que bientôt nous sommes au bout. Amen. On l'entend, le Seigneur revient bientôt. Est-ce qu'il va amener avec lui un monde corrompu? Non. Moi, je fais partie de ceux qui ont été rachetés par grâce. J'ai été pardonné parce que j'ai tourné un jour les regards vers Jésus, je me suis humilié, j'ai demandé pardon, j'ai été lavé par le sang de l'agneau. Autour de vous et autour de nous, eh bien une population est sur la voie de la perdition. Et c'est un petit peu comme Ninive. C'est pour ça que je dis au 21e siècle, aujourd'hui, il faut prendre conscience de cela. Parce qu'également, il y a une destruction qui est prédite sur la ville dont le nom symbolise eh bien, l'état de ce monde actuel, c'est la grande Babylone ou Babylone la grande. C'est l'image de ce monde dans lequel nous vivons, un monde qui vit dans le péché, qui vit dans la désobéissance, qui vit dans le mal. Nous subissons, nous aussi, les effets du mal. Et ces pays dont il est question, dont nous avons entendu parler, eh bien, sont des pays qui subissent encore plus que nous. Amen. Donc c'est vrai, hein, Dieu avertit, Dieu parle. Alors cette ville est citée pour la première fois après le jugement du déluge. Hein, Genèse 10, versets 6 à 12, nous dit que Nimrod bâtit Ninive, la grande ville. Genèse 11, versets 1 à 9, nous parle de Babel. Hein, cette ville que les hommes voulaient construire pour justement rester ensemble, alors que Dieu voulait que justement ils se dispersent sur toute la face de la terre. Mais eux voulaient rester ensemble. Pff, combien le cœur de l'homme est tordu, il est terrible, vous croyez pas ? Ne leur ressemblons pas. Si nous leur avons ressemblé, cessons de ressembler à cela. Amen. Alors, sa destruction nous est décrite également dans le dernier livre de la Bible. Hein, je prends Apocalypse 14, verset 6 jusqu'au verset 8, où il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix puissante « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez donc celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources. » Et un second ange le suivit, disant « Elle est tombée. » Vous voyez bien ? Elle est tombée, la grande Babylone est tombée. Celui qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité, elle est tombée. Amen. Vous voyez que Dieu va au bout de ses jugements lorsqu'il n'y a pas de la part de l'homme eh bien de changement, de bouleversement. Amen. C'est le prophète Jérémie qui disait à ses contemporains « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et afin de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses fautes se sont accumulées jusqu'au ciel. » Terrible. Lorsqu'il y a un tel constat, lorsque Dieu parle de cette manière. Lorsque Jonas fait cette prière, il est, lui, au sein d'une grande tempête. Et oui, je crois qu'il est bon de présenter un petit peu Jonas. Il nous est dit qu'il est fils d'Amittai, qui signifie « Dieu est vérité ». Dieu est fidélité aussi. Il est originaire de Gath-Hépher, en Zabulon, une ville située eh bien, à 6 km au nord de Nazareth. Il fut prophète dans le royaume du Nord, hein, sous le règne de Jéroboam II. Son nom contient une racine précise, celle de colombe. Ça vous dit quelque chose, la colombe ? Eh oui ! On sait que la colombe, l'oiseau, bien sûr, est le symbole de la fidélité par excellence. Amen. Et puis également, c'est l'oiseau qui n'a pas de fiel. Et le fiel, eh bien, c'est le symbole, nous le savons, de l'amertume, du ressentiment. Vous voyez, la colombe n'en a pas. Elle en est dépourvue. Amen. Et moi, je dis gloire à Dieu. Parce que nous pouvons nous aussi ressembler quelque part à la colombe, à un Jonas. Amen. Alors, nous voici donc avec ce Jonas, colombe, fils de Dieu et vérité ou fidélité, un homme plongé, je dirais, dans l'histoire difficile de son temps. Tiens, c'est pas nouveau. Et oui, des temps difficiles, il y en a eu, il y en aura encore. Et si aujourd'hui il y en a dans ta vie, sache que Dieu peut tout changer. Parce qu'on en est là. Si nous comptons sur nos forces, nous comptons sur la société, sur les hommes, on n'arrivera à rien. Mais si nous voulons compter sur le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui nous a créés, qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous a donné la vie, oui, il y a de l'espérance. Amen. À Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Dans tous ces pays fermés, dans tous ces pays dont nous savons qu'il y a eu et qu'il y a encore, eh bien, une persécution, ces pays comme l'Inde, hein, où quelque part, même j'ai lu que les autorités n'ont rien fait. Eh, ils ne se sont même pas mêlés de cela. Eh bien, on a besoin. On a besoin de fixer, nous, les regards vers le Seigneur. Amen. Également d'encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont à bout de ressources, de leur dire, mais il y a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut que tu vives, un Dieu qui veut que tu puisses justement jouir pleinement de cette vie d'ici-bas, afin de jouir d'une vie en haut, dans le ciel. Parce que nous avons et nous sommes entrés dans l'éternité. Amen. Nous ne sommes que de passage ici-bas. Hein. Comme je dis souvent, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais oui, avec le Seigneur, nous sommes pour l'éternité. Amen. Nous sommes entrés dans cette autre dimension. Amen. Alors, Dieu va appeler cet homme, Jonas, malgré les temps difficiles par lesquels il vit, pour cette mission particulière très précise. C'est-à-dire que Dieu va lui adresser sa parole en ces termes. « Mets-toi en route. » Je rappelle qu'il est, lui, au sein d'une grande tempête. Et on va le voir tout à l'heure. « Va à Ninive, la grande ville, proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Mais voilà que Jonas, au lieu de partir en direction de l'est, il s'embarque donc à l'opposé, à l'ouest, hein, sur un navire en direction de Tarsis. On pense que cette ville est située au sud de l'Espagne. Alors, survint alors une tempête d'une extrême violence. Le bateau menacé de faire naufrage. Je ne sais pas si un jour vous êtes retrouvé dans une telle situation. Il y en a qui se sont retrouvés, ils en parlent. Mais il y a encore les frissons qui leur viennent. Parce que quand on est au sein d'une tempête, sur une mer déchaînée, on est peu de choses. Hein. C'est là qu'on dit, mais on n'est pas grand-chose. Hein. Et oui. Alors les marins qui sont avec lui vont invoquer chacun leur divinité. Vous voyez ? Et puis, ils vont jeter à la mer toute leur cargaison. Tiens, ce qui faisait finalement les faisait vivre, le but de leur voyage, tout ça, ça disparaît au fond de la mer. Et oui, il y a des pertes. Il y a des pertes quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne veut pas justement s'approcher de lui ou quand on ne veut pas eh bien, lui faire confiance. Et puis, comme la situation allait en empirant, elle demeurait très critique, voilà qu'ils vont tirer au sort, savoir qui parmi eux leur porte malheur. Voyez un petit peu comme quoi, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, pas belles, et quelque part, eh bien, on les fait. Quelqu'un leur porte malheur. Il se dit, il y a une relation de cause à effet. Voyez un petit peu, c'est cela. Alors, le sort désigne Jonas, qui était allé, lui, pendant la tempête, bizarre hein, cet homme, hein, s'endormir au plus profond, au fond du bateau. Vous arrivez à dormir, vous, quand il y a la tempête? Mais lui, il ne voulait rien voir, hein, il ne voulait rien entendre, il voulait se cacher, il ne voulait absolument pas que Dieu le voie. Donc il se met au plus profond. Vous voyez, il pourrait encore aller plus bas, hein, jusqu'à la quille là-dessous, il serait allé. Non. Alors ils vont le réveiller, puis ils vont lui poser des questions. Et il leur dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Bizarre cet homme, hein. C'est un paradoxe. Hein. Je crains donc l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Alors il leur dit aussi qu'il fuyait la présence de son Dieu. Il ajoute, prenez-moi, jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous attire sur vous cette grande tempête. C'est moi. Il n'est pas fou le gars. Hein. C'est pas un demeuré. Il sait très bien. Et quelquefois, nous avons le même comportement. Nous savons que ça va nous attirer que le malheur, que la souffrance, que la désillusion, mais nous persévérons, c'est-à-dire que nous persistons, alors que Dieu nous dit non. Il y a eu un don spirituel tout à l'heure qui parlait de cela. Je crois qu'il est temps. Il est temps de lever les yeux, de cesser d'enfouir sa tête, pas dans le sable comme l'autruche, mais de ne pas vouloir voir. Dieu sait tout. Qu'est-ce que je peux cacher à Dieu ? Rien. Je me mettrai dans un trou de souris, hein, lui s'est mis au fond de la cale, là, tout au fond, en bas. Dieu me voit, Dieu sait ce que je suis, Dieu sait ce que je pense. C'est important. Amen. Alors après avoir hésité, parce que quand même il y a de la crainte hein, dans le cœur de ces hommes. On ne jette pas à la mer comme cela un homme au sein d'une tempête. Ça ne se fait pas. Alors, ils hésitent, mais voilà que les marins, eux, vont faire quelque chose. Ils vont invoquer le Dieu de Jonas. Lui, il le fuit. Eux, tournez regard vers lui. Quelque part, sans le vouloir, il est missionnaire. Sans le vouloir, il va les amener à fixer les regards sur lui parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Ce Dieu de Jonas, il est particulier. Il arrive à soulever de tempêtes comme cela où nous, nos dieux, ne font rien, nos divinités n'ont pas répondu. Alors ils vont dire, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Donc ils savent qu'on ne doit pas tenter la vie d'un homme. Ils le savent, ils le sentent. Alors, ils vont finir par jeter Jonas dans la mer. Regardez un petit peu. Aussitôt, la mer s'est calmée. Vous vous rendez compte un petit peu? Quand de quelque part, bon, c'est une image, mais quand de quelque part, on se débarrasse de ce qui finalement, eh bien, contrarie le Seigneur, de ce qui attire sur nous la souffrance, le malheur. Voilà que la tempête se calme. Amen. L'équipage est saisi de crainte envers l'Éternel. Ils vont lui offrir un sacrifice. Ils vont s'engager envers lui par des vœux. Vont-ils les tenir? Je ne sais pas. Mais c'est une bonne démarche, vous ne croyez pas? Quand je dis que c'est un missionnaire, malgré lui, eh bien, on en a quelque part la preuve, là. Alors, Jonas 2, verset 1, nous dit que suite à cela, Dieu va envoyer un grand poisson qui va avaler Jonas. Et Jonas va être 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Je ne suis jamais allé dans le ventre d'un poisson, moi. Mais je n'ai pas envie, vraiment. Hein. Et oui, ça va être particulier. Hein. Il y aura des gargouilles, et je ne sais pas trop, ça va être gluant. C'est... Ah, bah. Ben oui. Alors, voyez un petit peu, c'est dans cette situation dramatique que va jaillir du cœur de Jonas. Eh bien, cette magnifique prière, nous l'avons lue au début, bien sûr, elle nous a servi d'introduction à ce message. Je la donne. Tu m'as fait remonter vivant du fond de l'abîme. Ma prière est montée jusqu'à toi. Et j'accomplirai les promesses que je t'ai faites. Amen. Elle est belle, cette prière. Hein? Tu m'as fait remonter vivant du fond de l'abîme. Qui nous rend la vie alors que nous sommes plongés dans la mort? Nous sommes plongés dans nos péchés, nous sommes plongés dans nos ténèbres. Mais c'est le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous avons crié à lui. Il nous a rendu notre innocence, il nous a fait revivre. Mais ensuite, j'accomplirai les promesses que je t'ai faites. Est-ce que vous vous rappelez la promesse que vous avez faite à Dieu au début de votre conversion? Moi, je m'en rappelle. Je pense qu'on ne peut pas oublier. Amen. Ou alors, c'est qu'on veut l'oublier. Mais alors, nos mobiles, l'état dans notre cœur, est-il propre devant Dieu? C'est une question à se poser. Parce que si j'ai peur de me souvenir ou honte de me souvenir de la promesse que j'ai faite à Dieu, mais c'est grave. J'ai besoin de me souvenir de la promesse que j'ai faite au Seigneur et d'aller jusqu'au bout. Si c'est difficile, je dois l'invoquer. Je dois lui demander pardon. Et je dois lui dire, Seigneur, renouvelle en moi ta bonté. J'ai besoin de toi. Alors Dieu va parler au poisson qui va rejeter Jonas sur la terre ferme. Et une seconde fois, parce que Dieu, vous savez, il va aller jusqu'au bout. D'accord? Et souvent, je dis que Dieu n'est pas oublieux de nos engagements, mais aussi également de ses plans pour nos vies. Et là, une seconde fois, Dieu va ordonner à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas s'est mis en route. Il va entrer dans la ville, il va annoncer encore 40 jours, Ninive sera détruite. Il nous a dit que les habitants ont pris cet avertissement au sérieux. Ils vont publier un jeûne, quelles que fût leurs conditions, conditions sociales, petits ou grands. Ils vont se revêtir de sacs, de cendres. Ils vont s'asseoir dans l'humilité parce qu'ils sentent que cette fois-ci, c'est sérieux. Je pense parce que Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas le coup pourri qui tombe d'un coup. Dieu souvent prend le temps d'expliquer les choses. Il prend le temps de parler, d'amener et de permettre des circonstances. Amen. Mais là, ils sentent que c'est le bout du bout. Si on va plus loin ou si on persévère, si on continue, c'est la catastrophe. Ça va être terrible. Même le roi de Ninive va s'humilier, comme tout son peuple. Il va dire que comme les bêtes se courent de toiles, de sacs, et crient à Dieu de toute leur force, qu'ils renoncent à leur mauvaise conduite, aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait, dit-il, si Dieu ne se ravisera-t-il pas et s'il n'abandonnera pas son ardente colère de sorte que nous ne périssions pas? Même lui, certainement un roi arrogant, comme tous les rois de cette époque et comme tous les grands de ce monde, comprend, il saisit et dit, là, il ne faut pas aller plus loin. Quelque part, on sait quand il ne faut pas aller plus loin. Dites-moi. Hein? On a chacun nos propres expériences et on sait que si on va outre, eh bien, on risque de déguster quelque chose de terrible. On le sait. Alors, lorsque Dieu va voir comment les habitants de Ninive réagissent, comment ils vont abandonner leur mauvaise conduite, lui-même va renoncer à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Et il ne va pas le faire. Quelque part, voilà qui est formidable. Non? Ça peut vous donner quelque part, de la force pour communiquer avec les vôtres qui sont adversaires de Dieu aujourd'hui. Je ne veux pas dire ennemis. Mais qui, quelque part, vous font de la peine de les voir loin. C'est formidable. Nous sommes devant, je dirais, une réaction que nous connaissons nous-mêmes pour y être passés, parce qu'on a résisté à Dieu avant de capituler, avant de lui dire oui. Et nous aussi, nous nous sommes repentis de nos péchés. Et puis, nous avons été pardonnés. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Je dis souvent, le salut, c'est une œuvre d'amour de la part de Dieu, une preuve d'amour de la part de Dieu. Dieu nous aime. Pour aller donner son seul fils, son unique, sur le bois de la croix, c'est qu'il faut qu'il nous aime. Amen. C'est un amour grand, magnifique. Alors, c'est formidable, mais voilà que maintenant, c'est un paradoxe cet homme Jonas. Hein. Voilà que maintenant, Jonas, il est en colère. Eh oui. Il y aurait, je dirais, beaucoup à dire sur l'étonnante attitude de ce prophète, cet homme de Dieu. Jonas est très déçu, il se met en colère. Vous lirez un petit peu vous-même les 4 chapitres de ce livre, qui sont surprenants, mais également agréables à lire et très intéressants. Tout d'abord, nous constatons le chauvinisme de celui qui s'appelle Colombe. Eh oui. Et qui dit justement respecter le Créateur des cieux et de la terre, qui dit vouloir honorer Dieu en faisant sa volonté. C'est un paradoxe, vous ne croyez pas ? Les parents auraient dû l'appeler autrement. Non, non. Non, il fallait l'appeler comme cela. Amen. Son père également était dans la bonne ville. Alléluia. Alors, le message que Dieu lui a confié, on le sait, contient une heureuse nouvelle. Mais voilà que le prophète ne voulait pas que les habitants de Ninive puissent se repentir. Il faut avoir quelque part une drôle de rancune, une drôle de haine dans le cœur pour dire « lui, jamais ». Mais quelquefois, est-ce qu'on n'est pas arrivé jusque-là ? Jamais je ne m'abaisserai. Jamais je ne dirai. Ou je ne pardonnerai. Attendez, le Seigneur nous a pardonné ou pas ? Des fois, on a fait autant, sinon pire. Le Seigneur nous a pardonné. Et lui-même nous demande nous aussi de pardonner. La vie de Ninive était d'aller à l'extrême, disais-je, puisque c'était près de rompre. Vous voyez, c'était le bout du bout. Il n'y avait plus possible d'aller plus loin. Mais le Seigneur leur pardonne. Amen. Alors, il dit clairement ceci. Ce que je voulais éviter, c'est ce que je voulais éviter lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis enfui à Tarsis. C'est mobile, on les voit là. Hein ? C'est pas « je ne veux pas faire ta volonté », c'est « je ne veux pas qu'ils se repentent, je ne veux pas que tu leur pardonnes ». C'est ça que ça veut dire. Je savais que tu es un Dieu plein de grâce, de compassion, lent à te mettre en colère, riche en amour, tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Tu fais des menaces, mais si on se repent, tu arrêtes, tu pardonnes, tu oublies. Et lui ne voulait pas pour Ninive. Attention à nos mobiles, attention à notre cœur. Amen. Alors, si à la lecture de ce livre, nous désirons obéir à Dieu, notre Sauveur, entendons ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Prenons garde d'une chose. Et quand on est insensible, quelque part, c'est que, allez, on n'est ni froid ni tiède, on est partagé quelquefois. Hein. Alors quelqu'un parle, on dit oui, d'accord. Un autre parle, on dit oui, d'accord. C'est l'opposé. Vous voyez, non, il ne faut pas être comme cela. Hein, je prends ce texte d'Apocalypse 3,15. « Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Comme quoi, il y a un aveuglement. Hein, il y a un aveuglement. Tu es aveugle, tu es nu, tu ne vois pas que tu es misérable, que tu es pitoyable. Alors, cette parole... Bien sûr, on sait qu'elle était destinée à l'église de la Odyssée. Mais n'est-elle pas aujourd'hui, dans ce 21e siècle, dans cette ère moderne dans laquelle nous vivons, un avertissement destiné, je dirais, à toutes les églises, à tous les membres des églises, de tous les temps. Amen. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Qui croit ? On a besoin de se placer devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, regarde-moi, vois. Sonde mon cœur, sonde mon âme. J'ai besoin de toi. Amen. Jonas, pour lui, il est froid. C'est-à-dire qu'il est glacial. Il n'a aucun sentiment vis-à-vis de Ninive. Vis-à-vis du pardon que Dieu voulait accorder à cette population. S'il avait été tiède, partagé. Je pense qu'il serait resté à Jérusalem pour se faire voir comme fidèle, assidu au temple, aux cérémonies, etc. On n'aurait rien dit, on n'aurait rien vu de lui. Vous voyez ? Mais la Bible nous montre, dans de nombreux textes, que tous les disciples de Jésus ont reçu un ordre impératif. L'ordre impératif du Seigneur, c'est être ses témoins. Amen. Et c'est là que je rejoins ce que disait notre frère tout à l'heure. Nous sommes sauvés pour servir les projets de Dieu. C'est notre mission. Nous sommes sauvés pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes sauvés pour servir de témoignage. Nous sommes et nous devons être une lettre ouverte, décachetée et lue aux yeux du monde, aux yeux des nôtres, aux yeux de ceux qui sont eh bien, peut-être plus loin. Ils ont besoin de voir qui nous sommes, ce que nous avons en nous. Amen. Qui puisse nous aborder, nous dire, écoute, tu as quelque chose. Oh, je ne sais pas, mais on est bien dans ta présence. Est-ce qu'il y a cette approche auprès de vous ? C'est important. Hein ? L'Écriture nous enseigne que Jésus devait souffrir, qu'il devait mourir et ensuite revenir à la vie le troisième jour. Notre vocation, eh bien, elle est d'annoncer aux habitants de cette ville, de cette région, qu'ils doivent changer de vie, se repentir. On n'allait pas leur dire, repens-toi ! La porte est fermée. Peut-être lui parler. Et tu sais, si tu es dans cette situation, peut-être que tu devrais revoir ta façon de vivre. L'encourager. En lui disant, tu sais, je suis passé par là. Hein, parce que certainement, le Seigneur envoie quelqu'un qui a vécu la même chose que cette personne, mais qui en est sorti par la grâce de Dieu. Alors voilà, notre vocation, elle est là. Amen. Hein, ils doivent changer de vie parce que le Seigneur veut leur accorder le pardon de leurs péchés. Est-ce que nous étions meilleurs ? Moi, j'ai failli être criminel. Je partais au boulot, je revenais et je ne savais pas si j'allais revenir. Hein, parce que j'étais comme ça. Mais le Seigneur a changé ma vie. Je suis devenu un témoin de Jésus-Christ. Amen. À les premiers temps, après ma conversion, hein, quand j'étais devant un gars agité, je ne pouvais plus brandir les poings, le calmer comme ça. Hein. Mais je priais dans mon cœur, je dis, Seigneur, non, calme-le. Calme-le parce que je ne dois plus. Hein. Je ne vais pas lui en mettre deux et puis lui dire, tu sais, le Seigneur, il t'aime. Hein. Ça ne serait pas passé. Hein. Mais parce que je manifestais autre chose. Quelque part, ça a servi pour mes collègues, puisqu'après mon départ, il y en a un qui s'est converti. Vous voyez ? Mais c'est ça, hein ? Nous sommes ses témoins. Et comme le dit l'apôtre Paul, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ afin de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia ! La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen ! Ceux qui se croient détestés par Dieu ou par la société, eh bien, ont besoin de savoir que Dieu les aime, que Jésus les aime, qu'il leur a prouvé son amour à la croix du calvaire. Amen ! Un certain soir, dans un entretien particulier que Jésus va avoir avec Nicodème, hein, c'est un chef des Juifs, il est venu le voir en cachette. Bon, il ne voulait pas se montrer. Eh oui, c'est une classe particulière, et si on le voyait, il aurait des comptes à rendre. Hein. Alors, il va lui dire, dans le désert, Moïse a élevé un serpent sur un poteau, un serpent de bronze, bien sûr, de la même manière. Mais voilà, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Pour que finalement tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Qu'ils aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, justement pour que ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition. Alléluia. Qu'ils aient la vie éternelle. Quelle est belle la vie, le Seigneur. Même si la vie n'est pas facile pour nous, malgré que nous sommes enfants de Dieu, elle est belle la vie avec le Seigneur. Regardez autour de vous. Est-ce que vous les croyez heureux, ceux qui n'ont pas le Seigneur ? Peut-être qu'ils ont une façade. Mais si vous creusez un peu, hein, vous allez vous creuser. Vous verrez un petit peu que derrière le vernis, hein, la surface, là, eh bien, il y a bien des choses qui ne vont pas. Et en tant que serviteur de Dieu, nous le savons, nous le voyons. Hein. Des personnes même très célèbres, eh bien, un jour avoue qu'ils sont très, très malheureux. C'est arrivé à un collègue serviteur de Dieu, hein, une famille très célèbre, une famille très aisée, même sur la Côte d'Azur, hein, avec une grande, grande propriété. Mais en tout cas, ça n'allait pas du tout dans son cœur. Très, très malheureux. Amen. Regardez autour de vous, des hommes et des femmes. aujourd'hui vivent une grande détresse. Amen. On a beau changer d'air, de gouvernement. On a beau changer, je ne sais pas, de situation. C'est pour ça qu'on a, on en voit des couples et des familles qui se déchirent parce qu'on croit que c'est mieux à côté. Mais en fin de compte, il n'y a rien qui, quelque part, va les combler, va leur donner eh bien, le vrai bonheur. Amen. Des hommes, des femmes habitant dans cette ville, dans cette région, peuvent être sauvés. Vous êtes conscient de cela? Je reviens. Nous sommes sauvés pour servir les projets d'éternel. C'est notre vocation. Amen. Ce fut le cas de la ville de Ninive. Ils se sont repentis. Pour ça, croyez que Dieu est capable de le faire. Et souvenons-nous de ceci, c'est qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais que tout devient possible si moi je crois. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de toucher le cœur de ton mari ou de ta femme qui n'est pas converti? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de toucher le cœur de ton enfant qui n'est pas au Seigneur? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de toucher le cœur de ton collègue de travail, de ton voisin, que sais-je encore, de ton parent? Il peut le faire. Amen. Il peut le faire. Je ne vais pas nous donner un exemple, mais mon épouse, quand elle priait, elle disait « Seigneur, sauve-le pour qu'il te serve ». Je ne sais pas si c'est la prière qu'il faut donner, mais en tout cas, elle a été entendue. Parce que quelque part, elle se mettait déjà au service de Dieu. Amen. Alors avec un zèle, avec amour, avec force, mais avec sagesse, eh bien, il nous faut annoncer ce magnifique message à tous ceux qui sont autour de nous. Ils attendent la bonne nouvelle. Vous le savez? Ça vous étonne? Ils attendent. Je ne sais plus comment il s'appelle celui qui est allé évangéliser la Chine. C'est Hudson Taylor. C'est ça? Hudson Taylor. Un jour, il s'est retrouvé dans un village de brousse, au plus profond de la Chine. Et là, quand il a témoigné à un gars, le gars lui a dit « Mais il y a combien de temps que tu le sais, toi, ça ?» Alors, il a dit, je ne sais plus le nombre d'années qu'il connaissait le Seigneur. Il a dit, et tu as attendu toutes ces années pour venir me le dire à moi? Eh oui. Le Seigneur veut leur parler. Eux sont dans l'attente de quelque chose qu'ils ignorent. Amen. La Bible nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parvenant à la connaissance de la vérité en ce qui concerne le bien et le mal, ils choisissent le bien. Alors allez-y, amen, et c'est notre vocation. Et puis c'est ainsi que nous allons réjouir le cœur du Seigneur, que nous allons quelque part eh bien, préparer le retour glorieux du Seigneur. Le Seigneur revient. Si à Arles, on est les seuls à monter, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Hein? Eh bien oui, plaise au Seigneur que ce lieu devienne trop petit. On agrandira, on bâtira ailleurs. Ben oui, c'est un bon problème. Amen. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins fidèles. Alléluia. Et je crois qu'avec un nouveau ministère, c'est le temps où on envisage une orientation nouvelle, parce que Dieu donne à son serviteur une vision nouvelle. La vision qu'il a pour l'Église, pour l'œuvre d'Arles, eh bien, c'est le temps de réagir, de se lever comme un seul homme et dire, Seigneur, moi, je veux servir tes projets. Amen. Seigneur a travaillé avec le pasteur Garcia, d'autres avant. Il va travailler le pasteur Pouget maintenant. Et puis après, s'il n'est pas revenu, avec d'autres. Mais c'est dans le but de faire grandir l'Église. Chaque passage d'un nouveau serviteur de Dieu, eh bien, c'est justement l'annonce d'une éclosion. Amen. D'un avancement du règne de Dieu. D'un élargissement de l'attente, si vous voulez. Déplacer les pieux et agrandir l'espace de l'attente. C'est ça. Amen. Dieu va bénir son ministère. Je suis le seul à dire amen. Dieu est en train de bénir son ministère parce que c'est déjà quelque chose qui se fait. Alléluia. Et vous travaillez de tout cœur, avec l'homme que Dieu eh bien, envoie pour son peuple, pour cette population. On se lève ensemble, les bien.